Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Des conférences, 400 personnes inspirantes invitées à prendre la parole et 1000 solutions pour la planète. C'est la promesse du salon Change Now qui se tient à Paris du 25 au 27 mars. C'est le plus grand événement des solutions pour la planète, événement dont le groupe Les Échos Le Parisien est partenaire. Change Now, c'est une entreprise à impact positif. Sa mission, accélérer la transition écologique et sociale. Son objectif, sélectionner et aider 1000 solutions à fort potentiel d'impact pour la planète et faciliter la levée d'1,5 milliard d'euros pour les financer. La story y était, et cette année, on avait décidé de s'intéresser à l'eau. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos. Je vous invite à me suivre dans notre studio podcast au milieu du salon Change Now. Bonjour Charlène Descollonges.
Bonjour.
J'espère que vous êtes bien installée. On est comme dans un cocon, bien au chaud, ça
oui,
va?
Oui, oui.
Bon, je vous ai amené un petit verre d'eau. Je me suis dit que c'était d'actualité. Je suis ravi de vous accueillir dans le podcast des Échos. Vous êtes ingénieure hydrologue, autrice de l'eau dans la collection Fake or Not aux éditions Tana. Ensemble, on va parler du cycle de l'eau, de son parcours et de pourquoi il est urgent d'agir pour préserver un bien plus rare qu'il n'y paraît. Et la semaine prochaine, dans une seconde émission, je recevrai des entrepreneurs qui ont des solutions. Alors Charlène, d'abord, expliquez-moi, qu'est-ce qui vous passionne dans l'eau ?
Mais l'eau est une molécule incroyable de ses propriétés physiques et chimiques. En fait, c'est la seule qui cumule vraiment énormément de propriétés, à tel point qu'on l'utilise vraiment partout. L'eau est vraiment partout autour de nous, puis 3 jours sans eau et on meurt. Donc on a vraiment besoin de cette molécule. Et puis cette histoire, elle est complètement liée à la vie, en fait. Pareil, l'eau est la molécule mère de toute la vie, et donc sans elle, nous ne serions pas là à discuter de ces enjeux-là. Donc je pense qu'on lui doit vraiment énormément de choses et beaucoup de respect, donc à s'intéresser à elle et comment tout cela fonctionne.
Et comment vous vous êtes rendu compte de ça ? Comment est-ce que vous vous êtes dit, l'eau c'est important ?
Alors, de mon histoire personnelle, j'ai suivi mon grand frère qui est pêcheur à la mouche. Je racontais cela hier sur le plateau Change Now. Mon grand frère est passionné de rivières et donc il m'a emmené en fait à observer les truites. Et quand on a les pieds dans l'eau, dans la rivière, on regarde, on se questionne, est-ce qu'elle est en bonne santé cette rivière ? Comment est-ce qu'on peut la protéger, etc. Donc dans mes études, je suis tombée amoureuse de l'eau, tombée amoureuse des rivières et j'en ai fait mon métier.
En quoi ça consiste le métier d'hydrologue ?
Les hydrologues, ce sont vraiment les spécialistes des eaux de surface. Donc on étudie, on modélise la réaction d'une rivière par rapport à une pluie donnée. Donc ce sont un peu des geeks de l'eau, si je puis dire. On est là derrière nos ordinateurs à faire tourner des modèles en fonction de la météo, en fonction du climat, en fonction des prélèvements qu'on va exercer sur l'eau. Donc on est là à faire des prévisions, soit pour prévenir des inondations, et l'extrême inverse, des sécheresses. Et moi, j'étais plutôt spécialisée sur les sécheresses. Je le suis toujours, mais j'ai maintenant un peu quitté ma niche de spécialité pour aborder les enjeux de l'eau d'une manière globale et holistique.
Et vous êtes devenue conférencière engagée, hein, c'est le mot que vous employez. On connaît l'expression, hein, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Lavoisier, qui pensait d'ailleurs à l'eau, hein, lui qui a découvert la composition de la molécule d'eau, j'ai lu que la quantité d'eau disponible est la même depuis 4 milliards d'années, c'est vrai ?
Oui, c'est vrai. Alors, il y a toujours un équilibre qui se crée entre les pertes et les gains à l'extérieur de la planète, mais on est toujours à l'équilibre globalement. C'est seulement la quantité d'eau douce accessible et disponible qui varie selon les périodes glaciaires ou non glaciaires, interglaciaires, puisque l'essentiel de l'eau douce sur Terre, aujourd'hui en tout cas, sont présentes sous forme de glace dans les pôles et dans les glaciers continentaux.
C'est cette eau justement qui est en train de fondre. Hein.
Effectivement, alors on pourrait dire, eh ben, tant mieux, hein, avec le changement climatique, la fonte des glaciers, on aura plus d'eau. Eh ben non, on se rend compte que c'est beaucoup plus complexe que ça et qu'on aura certaines régions, dont fait partie la France, le sud de la France en particulier, qui vont recevoir moins de pluie. Donc on va vraiment vers une désertification, une aridification. Et ça, eh bien, évidemment, on n'est pas prêt encore à ça.
Vous vous souvenez de ce schéma qu'on a tous appris à l'école ? L'eau fait une boucle des océans au continent, en circuit fermé, tranquillement, sans encombre. Eh bien, en fait, c'est faux. C'est le résultat d'une étude internationale qui montre que quand on se représente le cycle de l'eau, on ne représente ni la pollution, ni le changement climatique.
Et on vient de vous entendre lors d'une conférence TEDx, c'était à Tours, sur le cycle de l'eau, un cycle immuable, mais que l'activité humaine est en train de changer. Vous dites, on a franchi une limite planétaire, pourquoi ?
On a même franchi deux limites planétaires. Depuis ma conférence TEDx, il y en a une deuxième qui s'est rajoutée. On a franchi la limite planétaire de l'eau verte. Alors ça, c'est ce que j'explique dans ce TEDx, qui est l'eau contenue dans les sols et évapotranspirée par les plantes. Les plantes, pour grandir comme nous, elles ont besoin d'eau. Donc, en fait, cette humidité des sols a tendance à sortir de ces échelles de variabilité naturelle. Ça veut dire qu'on se retrouve à avoir des sols soit trop secs, soit trop humides, en raison des activités humaines, déforestation, agriculture intensive, urbanisation, changement dans le régime des pluies aussi, avec le changement climatique, et tout ça, ça perturbe l'humidité du sol. Et donc, on a eh bien, des stress hydriques des sols de plus en plus importants, et c'est cette limite planétaire qui a été franchie. Et aussi, maintenant, celle de l'eau bleue qui a été franchie avec la variabilité naturelle qui change sur les débits des cours d'eau. On se retrouve à avoir des débits soit trop bas, soit trop hauts, des sécheresses ou des crues.
Ouais, ça, c'est notamment ce qui s'est passé par le manque de neige en hiver, hein, qui peut se répercuter et créer des sécheresses, effectivement, en été. Vous racontez dans cette conférence l'histoire de deux petites gouttes d'eau, leur parcours. Il y a vocation à sensibiliser les gens à travers cette petite histoire, mais on a du mal à voir en quoi c'est embêtant qu'il n'y a plus d'humidité dans le sol.
Oui, c'est vrai que dans cette histoire, j'avais à cœur de se mettre dans la peau de deux gouttes d'eau, deux gouttes sœurs, en fait, qui doivent faire leur cycle de l'eau, qui doivent donc boucler les océans en passant par les continents. Mais on se rend compte, dans cette première partie de l'histoire, qu'elles sont incapables de le faire parce que l'homme est partout et donc elles les empêchent de boucler le cycle. Et en raison notamment de l'agriculture, de tous nos prélèvements qui accélèrent ce cycle de l'eau, mais en même temps, elles repartent dans l'atmosphère, elles reviennent, elles repartent, mais elles ne finissent jamais leur cycle là où elles devraient être. Et donc, la deuxième partie de l'histoire, après on ira sur les solutions, mais en fait, la vraie problématique, c'est cette goutte de pluie qui n'a pas le temps de s'infiltrer, en fait, dans le sol, tout concourt à ce qu'elle ruisselle et qu'elle dévale le plus vite possible, qu'elle reparte eh bien, dans les canalisations, dans les rivières, etc. Elle n'a pas le temps de s'infiltrer, elle ne peut pas recharger les nappes en profondeur.
C'est et ça pose des problèmes à la flore, j'imagine.
Exactement, à la faune, à la flore, tous les écosystèmes, mais aussi nous, êtres humains, qui comptons sur ces nappes profondes hein, pour notre eau potable, par exemple.
J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus.
Dans 20-30 ans, il n'y aura plus d'eau. Vous connaissez cette phrase de Jean-Claude Van Damme dans cette vidéo incroyable. L'eau couvre presque toute la planète, la Terre que l'on appelle d'ailleurs la planète bleue. On a du mal à imaginer qu'elle puisse manquer.
Oui, c'est vrai. C'est d'ailleurs le titre de ma deuxième conférence aujourd'hui à Change Now, où on dit que l'eau, c'est une constante. On l'a considérée comme une constante, une variable constante, mais oublié de l'économie. On l'a complètement zappé. En fait, on s'est dit, tiens, on allait toujours avoir de l'eau, on n'allait jamais connaître de pénurie ou de manque d'eau. Et donc aujourd'hui, avec à la fois des sécheresses très intenses, très longues comme celles qu'on a connues en 2022, et aussi le pendant qui sont les inondations qui ont frappé notamment le nord de la France, eh bien on se dit que c'est plus si évident que ça. On se retrouve à ces extrêmes hydrologiques et donc des constantes qui deviennent vraiment des variables préoccupantes.
Les tensions entre police et manifestants ont déjà commencé. Les lacrymogènes et les tirs de mortier fusent dans l'air. À Sainte-Soline, petit village de l'ouest de la France, des militants écologistes sont déterminés à empêcher la construction de méga-bassines.
L'eau est une ressource essentielle aussi pour l'agriculture et les effets de la sécheresse en Espagne, mais aussi dans une moindre mesure en France, ont exacerbé les querelles autour des besoins en eau pour nourrir la population, avec le psychodrame autour des bassines, comme ici à Sainte-Soline. C'est un débat passionné. Cette idée de récupérer l'eau de pluie en hiver pour l'utiliser en été, est-ce que c'est pas déjà une façon de répondre aussi à ce manque d'humidité dans le sol, ou au moins une façon d'en atténuer les effets?
Alors attention, il faut faire une distinction entre deux formes de stockage d'eau. On a les retenues de substitution qui sont appelées méga-bassines, qui sont alimentées par les nappes. En fait, on pompe l'eau des nappes et on les remplit. Elles sont stockées et mises à l'air libre. Et puis, il y a les autres retenues qui sont les retenues de collinaires qui sont effectivement remplies par les eaux de ruissellement. Celles-ci mériteraient d'être un peu plus développées au détriment des premières pour justement optimiser cette récolte de l'eau de pluie de ruissellement et éviter qu'elle parte trop vite, trop loin à la mer. Mais avant toute chose, avant de stocker, c'est important de mentionner le fait qu'on a des sols morts, c'est ce que je réexplique dans le TEDx, qu'on a des sols qui ne sont plus capables d'absorber la pluie. Donc le but du jeu, en fait, ça va être de ralentir cette goutte en développant des pratiques agroécologiques, en désimperméabilisant les sols, en revégétalisant massivement tous nos paysages pour permettre à cette goutte de pluie de s'infiltrer dans les sols, avant de la stocker dans des grands ouvrages de stockage.
Oui, parce qu'on l'a tous vu, hein, quand la terre est très sèche, finalement, l'eau n'arrive même pas à pénétrer.
Mais oui, imaginez chez vous une éponge que vous laissez pendant 15 jours parce que vous partez en vacances, et bien quand vous rentrez, vous la mettez sous un filet d'eau, il n'y a rien qui y rentre. Donc c'est la même chose, il faut tout le temps avoir un sol plutôt aéré, hydraté, pour qu'il puisse continuer à faire son rôle éponge.
On a franchi deux limites, vous nous disiez, pour l'eau verte et pour l'eau bleue. Est-ce qu'il est trop tard pour inverser le phénomène? Comment est-ce qu'on peut régénérer le cycle de l'eau?
Alors, ces limites planétaires, elles ne sont pas irréversibles. On peut très bien revenir dans une zone de sécurité, comme toutes les autres limites planétaires qui ont été franchies. L'hydrologie régénérative, telle que on la prône avec l'association que j'ai cofondée, c'est l'idée de ralentir et d'infiltrer l'eau de pluie et de ruissellement et de densifier la végétation. En fait, on a un triptyque eau, sol, arbre. Plus on arrive à ralentir l'eau dans les paysages, à l'infiltrer dans des sols qui sont vivants, couverts en permanence, sans intrants chimiques ou pesticides, et en remettant des arbres, des haies, des bocages, eh bien, on travaille des paysages qui sont faits de manière à recevoir et à retenir l'eau dans les sols. D'autres pays l'ont fait, ça vient d'Australie, ça s'est pratiqué en Inde, au Portugal, les Slovaques s'y ont mis aussi. Donc en France, on commence à le faire petit à petit, et on essaye de maintenant quantifier les gains, de suivre, d'évaluer quantitativement si ça marche.
Là, notamment, il faut sensibiliser les agriculteurs, justement, à ce phénomène.
Et en fait, c'est même pas sensibiliser, parce qu'ils sont déjà sensibilisés. En fait, ils disent même que c'est du bon sens. C'est juste qu'ils sont pas forcément accompagnés financièrement à la mise en place de ces pratiques.
Comme nous l'avons fait pendant l'hiver sur l'énergie, on aura cet outil qui sera disponible dès le début de l'été pour que chaque Français, chaque agriculteur, chaque maire, chaque chef d'entreprise puissent connaître les gestes à adapter de manière très transparente et l'évolution de la situation pour voir que chacun contribue à une partie de la solution.
Voilà, on vient de l'entendre, hein, le gouvernement qui lançait il y a un an son plan eau avec ici Emmanuel Macron présentant un dispositif similaire à l'EcoWatt, mais pour l'eau, avec l'objectif de réduire la consommation globale d'eau de 10% à l'horizon 2030, notamment en réduisant les fuites. On va faire la chasse aux fuites. Il y a 50 centres industriels qui sont aussi sommés cette semaine par l'État de réduire leur prélèvement d'eau. Qu'est-ce que vous pensez du bilan de ce plan eau un an après ?
Alors, le plan eau qui a été annoncé, c'est un plan qui a été annoncé au pied du mur, hein, là, en l'occurrence, plutôt au bord d'une retenue, celle du lac de Serpenson dans les Hautes-Alpes, qui était presque à vide. Et donc, effectivement, on était un peu dans l'urgence de dire il faut économiser l'eau, il faut faire effort de sobriété, donc moins 10% des prélèvements d'ici 2030. C'est un peu moins que les ambitions qui étaient annoncées par les Assises de l'eau en 2019, mais quand bien même, l'idée est plutôt bonne de dire on fait de la sobriété, mais qu'elle soit globale. Le mot global n'a pas été prononcé, elle ne concerne que certains usages, et notamment l'eau potable avec la réduction de ses fuites des réseaux. Évidemment, il faut les réduire parce qu'on a 1 milliard de mètres cubes d'eau qui fuit chaque année dans nos réseaux. Il faut évidemment faire des efforts. Par contre, ça appelle en fait à ce que les communes se rassemblent pour investir massivement dans ces réseaux fuyards, et chose que certaines communes n'ont pas fait encore jusqu'à maintenant. Les industries faut savoir qu'elles ont réduit de 25% depuis 30 ans leur prélèvement en eau. C'est la catégorie d'usage qui a fait le plus d'efforts par, malheureusement, la délocalisation industrielle aussi, et puis des efforts de recirculation, d'optimisation dans le process industriel pour réduire la pression en eau. Donc, il y a encore des choses à faire, évidemment, mais le problème est ailleurs, puisque quand on regarde la consommation d'eau, en été, il s'agit bien de l'agriculture qui utilise et qui consomme de l'eau qui ne revient pas dans les milieux aquatiques. Donc, il y a un vrai sujet agricole et le plan eau est passé complètement à côté.
Est-ce que l'agriculture ne devrait pas justement avoir une priorité sur l'eau, elle qui a une mission tout aussi essentielle qui est de nourrir la population ?
Mais évidemment, on a toujours encore tendance à opposer l'agriculture avec l'usage de l'eau et tous les impacts qui peuvent y avoir sur l'eau et l'écologie d'une manière générale, alors que ça pourrait être une partie de la solution. L'agriculture, quand elle peut régénérer justement ces cycles de l'eau, comme je l'explique dans mon TEDx, eh bien elle peut faire partie et non négligeable de la solution.
Justement, est-ce qu'on a encore vocation à faire pousser, par exemple, du maïs dans le sud-ouest de la France, qui risque de souffrir encore des sécheresses dans les prochaines années ?
Évidemment, non. Malheureusement, c'est énormément d'investissements publics et privés qui ont été engagés depuis 30 ans maintenant. Alors, pour faire bouger tout ça, ça prend du temps. Mais oui, il y aura une mutation, en tout cas, des paysages agricoles en France, mutation des filières agroalimentaires. Et ce que j'entrevois, c'est une perspective de relocalisation, de résilience alimentaire des territoires, mais qui dit résilience alimentaire dit diversification agricole sur les territoires, donc partage de l'eau entre différentes formes d'agriculture, celles qui consomment de l'eau, celles qui en consomment moins.
Et aller chercher par exemple des plantes qu'on voit souvent en Afrique, qui pourraient remplacer, je pense au sorgho par exemple, qui pourrait remplacer le riz et les pâtes, le riz qui est très consommateur d'eau par exemple.
Oui, alors le riz, on le cultive très peu en France, il est surtout importé évidemment, mais oui, en fait la plante qui pose le plus de problèmes, c'est le maïs, puisque c'est 40% des surfaces irriguées sont destinées au maïs. Même si les surfaces tendent à diminuer, on est toujours très dépendant en fait, de cette culture-là. Et je pense qu'on va devoir prendre des décisions très courageuses et très fortes en disant on va réduire les surfaces encore de maïs, encore plus. Et évidemment, eh bien, diversifier avec d'autres plantes et d'autres céréales, notamment des protéagineuses ou des légumineuses qui seront nécessaires pour notre alimentation, notre souveraineté alimentaire et pour un apport protéines nécessaire pour nous, plutôt que des protéines animales, préférer des protéines végétales. Et ça, il faut restructurer des filières en France.
En me baladant tout à l'heure dans le salon avant l'interview, là, je suis tombé sur une start-up qui proposait une solution avec de la fibre optique pour repérer les fuites d'eau. Alors, j'ai pas retenu le nom de l'entreprise, mais on voit bien effectivement qu'il y a des solutions là aussi pour économiser l'eau. On en reparlera dans une semaine dans ce podcast. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à notre niveau, au niveau individuel? Comment est-ce qu'on peut réduire notre empreinte eau?
Alors, il y a deux choses. On peut évidemment réduire notre utilisation de l'eau à la maison, mettre en place une recirculation ou une réutilisation de certaines eaux grises, plutôt que de, voilà, arroser les plantes avec de l'eau potable, à réutiliser les eaux qui ont été utilisées pour les légumes, installer des petits mousseurs en sortie de robinet qui permettent de réduire de 50% en fait la consommation d'eau. Voilà, tout plein de choses qui peuvent être mises en place, récupérer l'eau de pluie pour les usages extérieurs. Il y a énormément de choses. Par contre, c'est que la surface visible de l'iceberg, puisque c'est l'empreinte eau qui est plus importante.
C'est ça, on va l'expliquer. Un Français, on dit souvent qu'il consomme 150 litres d'eau par jour, avec sa douche, l'eau qu'il boit. Mais vous, ce que vous dites, c'est qu'en fait, on en consomme finalement beaucoup plus, mais c'est ce qu'on ne voit pas, en fait.
Exactement. Et tout le plan eau, justement, a été focus sur l'eau domestique, les efforts que les particuliers peuvent faire chez soi. Mais en fait, l'empreinte eau, c'est 5000 litres par jour. 5000 litres d'eau virtuelle. C'est comme si on pouvait remplir 25 baignoires d'eau virtuelle qu'on utilise au quotidien sans le savoir.
C'est en fait de l'eau qu'on consomme parce qu'on s'habille, parce qu'on mange, en fait, c'est ça.
C'est ça, exactement. 80%, en tout cas, est lié directement à notre alimentation, et en particulier un régime carné, très riche en eau virtuelle. Plus on mange des protéines animales, plus on a une eau virtuelle très riche. Donc, diminuer la consommation de viande et de protéines animales pour des protéines végétales, et relocaliser notre alimentation par une agriculture paysanne, biologique, qui va prendre soin des sols, des arbres, de la biodiversité, etc., eh bien, c'est une partie de la solution qui est majeur et nécessaire.
Vous vous présentez, j'aime beaucoup l'expression, comme un médecin des rivières, et vous invitez les gens qui assistent à vos conférences à devenir les gardiens de nos rivières. Comment est-ce qu'on devient gardien des rivières ?
Alors, on n'a pas forcément de mode d'emploi, mais la première chose, peut-être, ce serait de s'interroger de quelle rivière je dépends. Selon où j'habite, on regarde une carte, et bien où se trouve la rivière qui est la plus proche, où est-ce qu'elle va, c'est-à-dire dans quelle autre rivière ou fleuve va-t-elle se jeter. Et donc, dès qu'on arrive à se situer dans ce qu'on appelle le bassin versant, c'est pas un bassin de vie, mais un bassin versant, c'est une cuvette qui va récolter toutes les eaux de pluie et de ruissellement et qui vont les concentrer dans ces rivières, eh bien, on prend conscience qu'on est dépendant de ces hydrosystèmes, que si ces hydrosystèmes sont en mauvais état à cause de la pollution, à cause de l'endiguement, à cause de l'artificialisation, eh bien, on va un jour subir des inondations, subir des sécheresses, des problèmes de pollution, etc. Donc, s'intéresser à l'histoire de sa rivière, c'est la première étape. Ensuite, on peut aller plus loin en cherchant à savoir si cette rivière elle est bien protégée. Est-ce qu'il y a ce qu'on appelle un parlement de l'eau autour de cette rivière, c'est-à-dire un rassemblement d'élus, de citoyens, d'acteurs économiques, de l'État qui vont prendre soin de cette rivière. Et donc là, c'est plutôt des syndicats de rivières qui s'en occupent en général. Donc allez vous en renseigner, vous vous informer sur la rivière dont vous dépendez et c'est déjà une très bonne chose.
Devenir député au parlement de l'eau, voilà un beau projet. Un dernier mot, on va sortir un peu du sujet. Vous êtes diplômé de l'IMT Mines Alès. Vous êtes major de promotion du Master Hydrologie Risque Environnement de l'Université de Montpellier. Que diriez-vous aux jeunes filles qui hésitent à suivre la voie de la science à l'école ?
Ah là là, mais foncez, foncez et ne vous arrêtez pas aux notes ou aux jugements parfois hâtifs, parce que j'en ai subi aussi par rapport aux maths. Je comprenais pas les maths, aujourd'hui je les utilise tous les jours. Mais c'est seulement quand on comprend l'intérêt de faire ses maths, de faire la physique, etc., le pourquoi on le fait, c'est hyper important de pourquoi on le fait, eh bien on en a besoin. Et venant d'une promotion où je crois on était 33% de femmes diplômées à l'école des mines, eh bien on a vraiment besoin de féminiser ces sciences-là et avoir plus de femmes pour prendre soin de tous ces éléments naturels dont on dépend.
Merci Charlène Descollonges, ingénieure, hydrologue et autrice de L'eau dans la collection Fécornote, c'est aux éditions Tana. Merci d'avoir écouté ce podcast des Échos. La story, c'est tous les jours sur leséchos.fr et sur les applications de téléchargement et de streaming de podcasts. Je vous donne rendez-vous d'ailleurs dans une semaine pour un nouvel épisode consacré à Change Now. On parlera de 3 solutions pour la planète. Cet épisode a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet.
Small details or big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.